Je présente maintenant Claude Chappert, qui va donner la conférence sur l'enregistrement magnétique, une nanotechnologie grand public. Il est directeur de recherche au CNRS, je l'ai dit, médaille d'argent du CNRS, Institut d'électronique fondamentale CNRS Université Paris Sud Orsay. Il a été élève de l'École normale supérieure, agrégé de sciences physiques, option physique, thèse d'État en 1985, ferromagnétisme de films ultra-minces de nickel et cobalt sur substrat d'or. En 2000, médaille d'argent du CNRS. Depuis 2001, il est directeur de recherche au CNRS. Et depuis 2006, responsable de l'axe thématique électronique de spin du centre de compétences en nanosciences de la région Île-de-France. Bon, je ne vous expliquerai pas sa spécialité parce que lui-même va vous en parler pendant la conférence. Ses travaux ont donné lieu à plus de 200 publications dans des journaux scientifiques en collaboration avec des collègues comme Albert Fer, que vous avez entendu il y a deux jours, Frédéric Nguyen, etc. Et Spintronic, le spin s'invite en électronique de Albert Fer et Claude Chappert, Images de la physique 2005. Donc je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, 50 minutes à une heure, et puis ensuite eh bien, je reviendrai ici pour la séance des questions. Voilà, merci.
Bon, bah, bonsoir tout le monde. Je remercie Michaud pour cette introduction. Et puis je voudrais aussi remercier Michel Verdaguet pour avoir mis sur pied cette... Il y a un petit problème, voilà, ça va mieux. C'est bon ? Voilà. Donc, et remercier Michel Verdaguet pour avoir mis sur pied cette série extrêmement intéressante. Moi-même, j'ai suivi une bonne partie des exposés et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que l'enregistrement magnétique et vous démontrer que même pour une technologie que vous pouvez acheter n'importe où au supermarché pour le même prix de, je sais pas, bon, une paire de chaussures ou quelque chose comme ça, vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne uniquement parce que c'est bourré de nanotechnologie et de nanosciences, et qu'on est encore chaque jour en train de faire des recherches pour l'augmenter, l'améliorer et aller encore plus loin que ce qu'on fait. Alors, avant de commencer, comme je vais vous parler de nano, je vais juste rappeler quelques grandeurs. Donc, typiquement, la grandeur absolue des nanosciences, c'est la taille de l'atome. Et il y a à peu près autant d'écart entre la taille d'un atome et la taille d'une pomme que ce que vous avez d'écart entre la taille d'une pomme et la taille de la Terre, par exemple. Donc le nanomètre, c'est le millionième de millimètre ou le millième d'un micromètre. Et un nanomètre, vous pouvez l'envisager comme environ 4 atomes. 4 ou 5, mais moi je prends 4 parce que c'est plus facile à gérer. Et quand je vais vous parler d'enregistrement, les ordres de grandeur de l'enregistrement, il faut bien se rappeler à quoi ça correspond. Donc en fait, on va stocker l'information sur des surfaces, en l'occurrence des surfaces magnétiques. Et cette information, elle est numérisée en mode binaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas écrire A, B, C, D, E, 1, etc. On va coder les lettres, les chiffres, etc. comme une suite de bits d'information. Et un bit d'information, c'est quelque chose qui vaut 0 ou 1. Et donc on va trouver une propriété quelconque de la matière qui permet d'avoir deux états distincts, et on va coder 0 sur un de ces états et 1 sur l'autre état. Et quand en général, on organise cette information, le bit d'information, c'est un peu plus petit, on ne peut pas coder grand-chose dessus. Donc on va coder, non pas sur un bit, mais sur 8 bits, c'est-à-dire en octet. Et aux États-Unis, l'octet s'écrit byte avec un grand B majuscule. Et les quantités qu'on va stocker sont gigantesques. C'est-à-dire qu'on ne va jamais parler de stocker un bit ou un octet, on va stocker au minimum un mégabit, c'est-à-dire un million de bits, ou plutôt un gigabit, un milliard de bits, ou même un terabit qui est 1000 milliards de bits. Et en général, malheureusement, parce que c'est un petit peu eux qui ont commencé au niveau des produits, les unités habituelles de densité surfacique de stockage, c'est le gigabit par pouce carré. Donc j'ai des transparents avec des courbes qui sont un gigabit par pouce carré. C'est facile à retenir. Un gigabit par pouce carré, c'est 1,5 bits par micron carré. Donc le micron, bah, c'est le millième de millimètre. C'est une unité bien européenne et système international. Et 1 gigabit par pouce carré, c'est à peu près 1,5 bits par micron carré. Et puis il faut aussi savoir ce que ça correspond en termes de vide de tous les jours. Parce que votre disque dur, vous avez l'utilisé, votre enregistrement magnétique, mon bande, vous allez l'utiliser pour stocker des choses dont vous vous servez tous les jours. Donc, par exemple, on va avoir 100 mégaoctets, ça correspond à peu près 1 mètre linéaire de livres imprimés sur une étagère. Ou 10 minutes sur un CD de musique classique. Ou à peu près 2 heures de musique sur un CD audio codé en technologie MP3. Ou une centaine de photos en utilisant une résolution à peu près standard avec une compression aussi à peu près standard. 4,7 gigaoctets, c'est un DVD. Donc, c'est 2 heures de vidéo télé au format vidéo standard. 100 gigaoctets, donc, ça va faire à peu près 43 heures de vidéo standard. Mais si vous passez en vidéo haute définition, ce qui commence à arriver de plus en plus, à ce moment-là, vous n'allez plus stocker que 9 heures de vidéo haute définition sur un DVD, sur 100 gigaoctets de support d'information numérique. Et puis le 10 teraoctets, qui est quelque chose dont on n'est pas si loin, 10 teraoctets, ça représente les 19 millions de documents, livres, dessins, etc., qui sont contenus dans la librairie du Congrès aux USA, qui est une des librairies les plus grandes du monde, sinon la plus grande du monde, et vous pouvez stocker ça sur 10 teraoctets de mémoire quelconque. Or, à l'heure actuelle, vous trouvez déjà des disques durs de 1 ou 2 teraoctets juste sur un petit disque. Donc on va bientôt pouvoir, sur un seul support d'information, stocker la totalité de l'information contenue dans une grande librairie qui est un énorme bâtiment avec tout un tas de livres. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est... d'après ce que je viens de dire, vous auriez presque l'impression, bon, mais puisque vous avez 1 teraoctet, 10 teraoctets, 10 disques durs, vous stockez toute la librairie du Congrès, on a déjà trop de supports d'enregistrement numérique dans le monde. En fait, pas du tout. Là, vous avez une étude d'une société IDC, qui est une société de conseil. C'est un résultat qui m'a été transmis par Brandon Lafferty de la société Seagate. Et en bleu, vous avez... L'augmentation de quantité d'informations générées de par le monde régulièrement par les moyens modernes, télévision, cinéma, diffusion radio, etc. L'unité, remarquez l'unité, c'est des pétabytes, c'est-à-dire c'est déjà des milliers de teraoctets. Et cette courbe bleue montre comment il est prévu que cette quantité d'informations augmente. Et en rouge, c'est... la capacité de stockage dont on dispose et qu'on prévoit de disposer dans le futur en augmentant, en fabriquant plus de disques durs, de bandes magnétiques, etc. Donc on est déjà, en 2008, on est déjà en retard sur ce qu'il faudrait pour stocker toute l'information qu'on génère. Et les moyens de stocker cette information, il y en a 4 principaux que j'ai montrés là-dessus. Ben, tout en haut, la petite courbe, c'est la mémoire flash, c'est-à-dire les clés USB, les petits trucs standards qu'on manipule tout le temps. La bande magnétique, donc là, il s'agit d'enregistrement digital, hein, pas de bande magnétique audio. Les supports optiques, DVD, Blu-ray, etc. Et le disque dur. Et parmi toute cette quantité de moyens de stocker l'information, remarquez que les deux plus gros sont les stockages, l'enregistrement magnétique. Donc pour l'instant, l'enregistrement magnétique continue à dominer le stockage numérique de l'information. Et quand on regarde les extrapolations pour 2010 ou même plus tard, on se rend compte que même si dans notre vie de tous les jours, on a tendance à manipuler de plus en plus de petites mémoires flash sur les appareils photo, les caméras, etc., quand on regarde globalement sur tout ce qu'on va stocker dans le monde, c'est encore de l'enregistrement magnétique. Alors, je vais essayer de faire mon exposé en 4 phases. Je ne sais pas si j'arriverai complètement jusqu'au bout. Ça dépend du temps. Donc, je vais d'abord vous rappeler les bases de l'enregistrement magnétique pour vous permettre de comprendre un peu comment ça se passe. Ensuite, sur un exemple, le disque dur, qui est vraiment l'archétype de l'enregistrement magnétique, je vais vous montrer comment on introduit tous les jours des nouvelles technologies nanosciences pour essayer de repousser les limites de l'enregistrement. C'est le troisième point. Et ensuite... j'essaierai de vous faire une petite vision globale de l'enregistrement numérique, quels sont les problèmes qui restent et comment ça pourrait évoluer. Alors si on repart sur les fondations du magnétisme, on repart dans la physique quantique la plus basique, et c'est-à-dire vous avez des électrons dans la matière, ces électrons ils occupent une fonction d'onde, etc. Et ils se déplacent dans le matériau et on s'en sert soit pour transférer de l'information à gauche, soit pour stocker cette information en mettant des charges sur des capacités. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'électronique. Mais ces électrons, de par la mécanique quantique relativiste, on sait qu'ils ont une autre grandeur quantique dont on doit tenir compte, et c'est le spin. Et le spin, vous imaginez, si l'électron a une structure chargée, s'il tourne sur lui-même, il va avoir une quantité de mouvement, et cette quantité de mouvement est quantifiée. Et si vous projetez cette quantité de mouvement sur un axe de l'espace, vous allez trouver deux valeurs, soit plus, soit moins, 1/2 du quantum de quantité de mouvement, qui est h sur 2π, la fameuse constante h bar de la mécanique quantique. Et comme vous avez un moment angulaire, vous allez avoir un moment magnétique associé à ce moment angulaire. Et finalement, ce moment magnétique, vous avez deux moments magnétiques à chaque fois que vous avez un électron qui tourne autour d'un atome. Vous avez le moment magnétique lié à la petite boucle de courant que fait l'électron quand il tourne autour de son noyau. Et vous avez le moment magnétique lié au spin de l'électron lui-même, donc qui tourne sur lui-même. Et ce moment magnétique atomique, quand vous regardez, vous faites la somme sur tous les électrons autour d'un même atome, vous avez un moment magnétique total, atomique, et ce moment magnétique total, c'est lui qu'on utilise pour l'enregistrement magnétique. Donc on est parti de la mécanique quantique, on arrive à quelque chose d'atomique, qui est un moment magnétique, mais si vous voulez jouer avec des moments magnétiques atomiques, on est capable de faire ça dans les labos avec des équipements qui occupent la taille de cette pièce et qui sont extrêmement chers, mais pas de vous donner un disque dur ou une bande magnétique sur laquelle vous pouvez vous stocker de l'information. Donc on a besoin d'autre chose. On a besoin, à partir de ce moment atomique, on a besoin de quelque chose qui nous permette de traduire ça dans notre monde à nous, dans notre monde macroscopique. Et la première chose, c'est l'interaction d'échange. L'interaction d'échange, c'est une interaction aussi d'origine quantique, mécanique quantique, ce qui est quelque chose qui va induire une interaction extrêmement forte entre deux moments magnétiques atomiques sur des atomes voisins. Cette interaction, elle est très forte, mais elle ne concerne que les voisins. Donc elle va se propager d'un voisin à un autre voisin, à un autre troisième voisin, etc. Et comme elle maintient parallèle les moments atomiques voisins, elle introduit la possibilité de faire une moyenne macroscopique par unité de volume, sur un petit volume de taille macroscopique, mais quand même, je parle de l'ordre du micron, par exemple. Et cette aimantation, qui est donc le moment atomique moyen par unité de volume, c'est une grandeur macroscopique. C'est une grandeur que vous pouvez, vous oubliez l'atome, vous oubliez toute la mécanique quantique, et vous manipulez plus qu'une grandeur en classique, dans un milieu continu, comme un champ magnétique ou un champ électrique dans l'espace. Et donc cette interaction d'échange, elle introduit justement le passage du monde quantique au monde macroscopique. Et ensuite, vous devez disposer, comme je disais tout à l'heure, d'un moyen de stocker l'information binaire, c'est-à-dire d'un système où il y a deux états. Un état sur lequel vous allez stocker 0 et l'autre état sur lequel vous allez stocker 1. Et il suffit d'avoir une énergie magnétique anisotrope, c'est-à-dire une énergie totale qui va dépendre de l'orientation du moment de l'aimantation dans mon matériau. Et si je me débrouille bien, je vais avoir ce que vous avez sur cette figure, c'est-à-dire, par exemple, quand je tourne l'aimantation du matériau, c'est cette grosse flèche là qui moyenne les moments atomiques. Quand je la tourne, quand elle est dans cette direction, j'ai un minimum d'énergie, donc j'ai un état stable. Si je la tourne 90 degrés, je passe par un maximum d'énergie, c'est-à-dire un état instable. Le système ne voudra pas rester là-dessus. Et de l'autre côté, à 180 degrés, c'est-à-dire la direction opposée, j'ai un autre état stable. Et quand j'ai quelque chose comme ça, j'ai les deux états sur lesquels je peux stocker 1 et 0. Et j'ai une barrière d'énergie entre les deux, qui sera difficile à franchir. Et pour stocker de l'information, préserver l'information que j'ai stockée, je vais devoir me débrouiller pour que cette barrière d'énergie, elle soit très grande par rapport à ce qui va détruire le stockage de l'information, c'est-à-dire l'excitation thermique. Le fait que, bon, même à température de cette salle, qui est quand même pas si élevée que ça, on a suffisamment d'énergie induite par la température pour que les atomes bougent, les spins bougent, etc., etc. Donc pour donner assez d'énergie pour passer au-dessus de cette barrière. Donc cette barrière, vous allez voir, sur une particule comme celle-ci, elle est proportionnelle au volume de la particule et à une constante qu'on appelle la constante d'anisotropie et qu'on nomme de manière universelle comme le grand K. Donc, à vous rappeler, hein, barrière d'énergie, etc. Et puis, on a besoin aussi d'un moyen d'écrire cette aimantation. Écrire cette aimantation, ça veut dire écrire l'information sur une aimantation, ça veut dire être capable d'orienter l'aimantation dans une direction ou dans l'autre. Donc là, on va utiliser l'interaction où l'énergie émane, qui est l'interaction de l'aimantation avec un champ magnétique. Hein, quand vous appliquez la boussole, elle s'oriente dans le champ terrestre parce qu'elle a une aimantation et que cette aimantation interagit avec le champ magnétique terrestre. Donc là, c'est facile. Prenez par exemple la même particule que tout à l'heure. Je l'approche d'une boucle de courant. J'injecte un courant dans cette boucle de courant. Ça fait tourner l'aimantation. Quand vous regardez en profil d'énergie, je suis parti avec le profil de double puits d'énergie et une barrière entre les deux. Grâce au champ magnétique, je supprime la barrière en distordant le profil d'énergie. Et quand je coupe le champ magnétique, je reviens au même profil, mais cette fois, j'ai changé l'orientation. Et à partir de 0, j'ai écrit 1, ou à partir de 1, j'ai écrit 0. Et il faut enfin lire l'aimantation. Alors, lire l'aimantation, c'est tout à fait connu aussi. Hein, quand vous avez un petit aimant, il va créer dans l'espace un champ magnétique. Ce champ magnétique, il suit des lignes de champ. Hein, donc, il est parallèle à ces lignes de champ. Donc là, je l'ai représenté par les petites flèches. J'ai mis une structure. Et puis, pour stocker l'information, je vais prendre plusieurs de ces petites structures et je vais les disposer, par exemple, en ligne ou sur une surface. Donc là, j'en ai mis deux. Celle-ci est orientée dans un sens, elle va par exemple coder 0, les deux autres sont orientées dans l'autre sens, elles vont coder 1. Et je vais donc avoir le champ magnétique au voisinage de ces particules, qui est la somme de tous les champs particules, de tous les champs magnétiques créés par chacune de ces particules. Et vous voyez que il y a des endroits où ils vont s'ajouter dans une direction, et puis à côté ils vont s'ajouter mais dans l'autre direction, ou changer de direction carrément. Et puis là, j'utilise la loi de Lenz, c'est-à-dire je rapproche la bobine de tout à l'heure, je vais la promener à la surface de ce truc-là. Le flux magnétique à travers la bobine, c'est l'intégration du champ magnétique qui passe à travers ce circuit fermé. Et quand je bouge ma bobine, je vais avoir à ses bornes un signal électrique, une tension, qui est proportionnelle à la dérivée temporelle du flux, c'est-à-dire en quelque sorte proportionnelle à la vitesse de passage de la bobine au-dessus de mon support d'enregistrement. Et c'est très simple, et c'est comme ça que marchait le premier système d'enregistrement magnétique, le télégraphone de Poulsen, qui date quand même de 1898. Alors dans le premier système, c'était un fil métallique, hein, c'est l'image de gauche, donc il avait un fil magnétique qui s'enroulait sur un tambour, et puis la tête de lecture, c'était juste une bobine comme ça. Dans un deuxième système, c'était à droite, c'était plus un fil, c'était un ruban métallique magnétique. Alors évidemment, le ruban magnétique métallique, c'était quand même pas très pratique pour stocker des quantités d'informations. Donc il y a eu pas mal d'essais, des progrès. On a inventé en 33, entre 28 et 35, il y a eu plusieurs améliorations considérables. Donc en particulier la bande magnétique, un support souple sur lequel on dépose le matériau magnétique. Une tête dite à nano, où c'est plus une simple bobine comme ça, mais une bobine avec un entrefer, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, qui permet d'écrire beaucoup plus petit. On a aussi inventé des mémoires magnétiques à cette époque-là. Donc ça, c'était des petites tours de ferrite qui étaient bobinées à la main avec des fils électriques qui partaient d'un côté à l'autre de cette piste. C'était tout petit comme capacité, mais il n'y avait rien d'autre à l'époque. Et puis, en 1956, IBM a inventé le premier disque dur. Et là, le premier disque dur, c'était le début d'une aventure assez extraordinaire, puisque vous regardez, par exemple, entre 1970, vous avez en image la taille d'un disque dur de 1970 qui contenait à peine 256 kilooctets. Donc 256 kilooctets, je vous ai montré tout à l'heure, vous stockez même pas une chanson MP3 là-dessus, ou à peine. Et puis maintenant, le disque dur standard dans petit format, c'est de l'ordre de 700 à 750 gigaoctets en 2008. Donc, on a fait 1000 fois plus petit pour une capacité totale 3 millions de fois plus grande. Les virgules, c'est du... J'ai oublié de remplacer par... Et si vous regardez finalement ce qui permet de calibrer quantitativement la qualité de votre support d'enregistrement, c'est le nombre de bits que vous allez mettre par unité de surface là-dessus. Donc là, on est parti du premier disque dur d'IBM en 57, le Ramac, où il y avait 2 kilobits par pouce carré de surface. Jusqu'à 50 ans plus tard, les disques durs classiques, les produits habituels, où là on stocke 200 gigabits par pouce carré, c'est-à-dire que dans un petit carré de 1 micron carré, 1 micron par 1 micron sur votre surface, vous allez stocker 300 bits d'information. Donc là on est vraiment dans le monde des nanosciences, hein, ça représente une augmentation d'un facteur 10 puissance 8 en 50 ans, c'est considérable, 100 millions de fois plus grand. Et c'est pour ça, c'est à cause de cette augmentation phénoménale que le disque dur a conquis non seulement les ordinateurs, là où il a commencé, pour les scientifiques, les calculs, etc., mais a conquis aussi tout un tas d'applications dites grand public. Donc, par exemple, le fait que vous avez ça maintenant dans les caméras, dans les iPods, vous avez ça dans les enregistreurs de salon, vous avez ça intégré à votre décodeur télévision numérique ou même carrément dans votre télévision. Et les plus petits disques durs qui ont été faits, ils étaient tout petits et c'était pour les premiers iPods dits micro ou nano. Les estimations d'un constructeur de disques durs comme Hitachi, par exemple, c'est qu'en moyenne, il compte vendre à peu près 10 disques durs par domicile à partir de 2010, par exemple, c'est-à-dire très bientôt, ouais, dans moins d'un an, dans à peine plus d'un an. Alors évidemment, il y a des concurrents. Donc, par exemple, les tout petits disques durs, ils ont disparu. Ils sont remplacés maintenant par des cartes mémoire flash. Hein, c'est l'iPod Nano que vous pouvez acheter. Simplement parce que les autres technologies progressent aussi. Parce que le disque dur, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Et donc, petit à petit, la concurrence se fait. Et il y a des choses qui se développent d'un côté et qui diminuent de l'autre. Mais quand vous regardez, par exemple, les diverses applications du disque dur au cours du temps, hein, vous partez de l'année 2002 jusqu'à l'année 2009. La partie en vert ici, c'est les applications multimédia, tout ce qui est télévision, magnétoscope, etc., etc. Et vous voyez que ça se développe à toute vitesse. La part ici devient de plus en plus grosse, alors que la partie ordinateur se développe, mais pas de manière considérable, et la partie ordinateur de bureau ou stockage d'entreprise se développe aussi tout doucement. Voilà. Alors c'est un secteur qui subit une croissance phénoménale, hein, puisqu'il a été multiplié par deux entre 2004 et 2008. Il se vend cette année plus de 600 millions de disques durs dans le monde. Et même avec la crise économique, il y a un tel besoin de quantité de stockage que ça va se ralentir, ça ne va pas rester à 13, 14, 15% d'augmentation annuelle, mais ça devrait quand même rester une augmentation assez considérable. Alors, je vais essayer maintenant de vous expliquer un peu comment on est arrivé à ce développement du disque dur, et en particulier quel a été l'impact des nanosciences dans ce développement, et puis surtout, est-ce que ça peut durer, hein, comment on va faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire en nanosciences magnétiques pour aujourd'hui et demain, et puis jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc sur l'exemple du disque dur. Alors l'exemple du disque dur, c'est facile. Vous avez un disque qui tourne, sur lequel il y a un fil magnétique uniforme. On a juste déposé sur un support le plus plat possible. Et il y a une tête de lecture-écriture, la petite bobine de tout à l'heure, qui est au bout d'un bras, et ce bras tourne autour d'un axe qui est là. Donc votre bras, je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure, il va adresser. Et quand il est stable, il va lire une piste d'information qui représente une piste circulaire sur le disque. Donc là, j'ai redressé la piste circulaire. Je voulais représenter ici, avec, par exemple, au début, tous les bits, tous les moments magnétiques alignés dans le système. Donc la tête, elle est fixe et la piste va se promener devant la tête. J'ai ma tête de lecture, ma micro-bobine. Alors, juste une petite parenthèse, je ne parlerai plus de bande magnétique après. L'avantage du disque dur par rapport à la bande magnétique, c'est que Sur une bande magnétique, quand vous stockez une information à un bout de la bande, vous êtes obligé de dérouler toute la bande pour aller retrouver cette information. Sur le disque dur, vous allez stocker l'information sous forme de secteurs d'informations, donc de secteurs circulaires tels que celui qui est représenté ici. Mais quand vous avez besoin d'aller chercher une information, vous n'êtes pas obligé de dérouler tout le disque. Vous vous contentez de changer de secteur d'un bout à l'autre du disque. Donc c'est ce qu'on appelle un accès aléatoire à l'information par comparaison à un accès séquentiel dans la bande magnétique. Mais en contrepartie, la bande magnétique, vous stockez sur une surface, mais ensuite vous enroulez cette surface sur elle-même. Donc en fait, vous stockez l'information non pas bidimensionnellement, mais tridimensionnellement. Donc la bande magnétique, à volume égal, coûtera moins cher et stockera beaucoup plus d'informations qu'un disque. Donc il y en a une qui a un avantage, l'autre un autre avantage. Alors je repars à mon information. Ben, si j'applique un courant, une impulsion de courant dans ma microbobine, je vais localement au voisinage de la bobine retourner un bout d'information sur mon disque, un bout d'aimantation, et quand je coupe le courant, ben, ce que j'ai écrit reste écrit, et j'ai stocké d'informations sur mon disque magnétique. Ok. Alors évidemment, quand je regarde là-dessus, je pense que je n'arriverai pas à vous faire croire qu'avec un simple petit bout de fil comme ça, je vais réussir à écrire une information sur quelque chose comme quelques dizaines de nanomètres ou centaines de nanomètres de dimension latérale. Donc il nous faut quelque chose qui arrive à localiser l'écriture, la lecture de l'information. Donc pour ça, le système magnétique, c'est réaliser une sorte d'électroaimant en miniature. Vous avez tous vu probablement des électroaimants dans le labo, des grosses bobines avec des grosses pièces de ferraille, un entrefer qui boucle le champ. Ben là, maintenant, on fait ça de manière miniature pour écrire sur le disque dur. Donc ici, vous avez l'électroaimant, une bobine qui est enroulée autour de cet électroaimant. Ça va localiser la zone d'écriture sur une dimension qui est comparable à l'ouverture ici de l'électroaimant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être tout petit, d'autant plus que maintenant, cet électroaimant, il est fait par des méthodes de microélectronique. Donc, par exemple, on peut très bien arriver à descendre cet entrefer ici, en dessous de la centaine de nanomètres, pour bien localiser l'information que j'écris sur mon disque dur. Et pour la lecture, c'est la même chose. Quand je passe ma bande sur le système, eh ben, le flux magnétique du système lié à l'information qui est écrite sur les pistes, il va être transcrit par cette tête de lecture en fonction du champ magnétique qui est localisé à peu près, qui est mesuré dans le gap de cet électroaimant là, dans cette partie centrale ici. Et donc à ce moment-là, ben, ça veut dire que vous avez aussi une localisation, une sensibilité spatiale extrêmement forte, de la lecture de l'information sur votre tête. Mais il y a quand même un inconvénient, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, vous mesurez un flux magnétique. Un flux magnétique, plus vous allez diminuer la taille de vos bits magnétiques, plus vous allez stocker d'informations par unité de surface, plus le champ magnétique que vous mesurez ici sera faible, plus vous allez devoir aussi serrer l'entrefer pour être capable de détecter, donc diminuer le flux qui va passer dans le système, vous diminuez le flux et la vitesse de rotation de votre disque, elle va être limitée. On considère qu'au-delà de 15 000 tours minute, le disque il court le risque d'exploser mécaniquement avec les vibrations, etc. Donc ce système-là ne peut pas donner une bonne sensibilité pour les informations, les très hautes densités d'informations. Et donc, en revenant à cette courbe de tout à l'heure, vous voyez que entre 1957 et 1990-91, vous aviez une croissance de la densité d'enregistrement qui était de l'ordre de 25 à 30% par an. Et puis, tout d'un coup, en 1991, ça commence à augmenter de plus en plus vite. Ça passe à 60% à peu près en moyenne dans cette phase-là. Ensuite, plus de 100% d'augmentation de densité d'enregistrement. Et ça, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un saut technologique. Et ce saut technologique, ça a été l'amélioration considérable de la capacité à lire des tout petits bits d'information en abandonnant la lecture par mutuelle inductance et en remplaçant par la lecture par magnétorésistance. Donc si vous avez écouté l'exposé d'hier de Claude Fermont ou celui d'Albert Fert plus tôt dans la semaine, bah, il a expliqué toutes ces histoires de magnétorésistance. Et c'est grâce à cette, euh, grâce à cette découverte fondamentale qu'on a réussi à améliorer à ce point-là la capacité d'enregistrement. Alors je vous montre rapidement, vous imaginez que vous avez un petit barreau magnétique ici, un fil de matériaux magnétiques, et puis il se trouve que dans les films de matériaux magnétiques, quand vous changez la direction de l'aimantation, vous changez la résistance du film. Alors c'est tout petit, hein, c'est quelque chose qui a été découvert il y a 150 ans, c'est de l'ordre de 1% de variation de résistance, mais déjà 1% de variation de résistance, c'est quelque chose qui peut permettre de faire un capteur, même réduit. Et alors là maintenant, j'ai ma tête de lecture qui est fixe, je vais bouger ma piste magnétique de disque dur devant, et voyez, quand je passe au niveau entre 2 bits, à la frontière entre 2 bits, c'est là que j'ai le champ magnétique qui s'additionne, qui est le plus fort. Donc je vais bouger la direction de l'aimantation dans mon barreau, je vais changer la résistance et je mesure un signal. Et puis je continue à faire bouger et je passe dans la zone intermédiaire et à ce moment-là, j'ai un champ assez faible qui en plus est horizontal, donc mon aimantation ne bouge pas, j'ai un signal zéro. Et quand je continue, je passe sur le bit suivant et je vais de nouveau avoir une magnétorésistance qui va changer. Trouver quelque chose de différent. Et je continue comme ça, et je réussis à faire une lecture résistive de l'aimantation. Alors, vous avez un signal d'une variation de résistance qui est de l'ordre de seulement 1%, mais vous imaginez que cette fois, ça ne dépend plus de la vitesse. C'est quelque chose, vous pouvez augmenter la sensibilité de votre capteur sans avoir besoin d'augmenter la vitesse de rotation du disque dur qui, de toute façon, a déjà atteint ses limites. Il vous suffit pour augmenter de passer de 1% de variation de résistance à une valeur plus importante. Donc la magnétorésistance géante de 1988, la découverte qui a permis à Albert Fert et Peter Grünberg d'avoir le prix Nobel, c'est justement de montrer qu'en faisant des couches extrêmement minces, des couches magnétiques extrêmement minces, avec deux directions d'aimantation qu'on pouvait soit aligner, soit mettre antiparallèles l'une à l'autre, on agit comme avec un polariseur, analyseur en optique, c'est-à-dire qu'on va laisser passer les électrons ou au contraire les bloquer. Et en faisant ça, ils avaient obtenu dans leur système où il y avait des multicouches, c'est-à-dire des dizaines de couches d'une direction et des dizaines de couches dans l'autre, ils avaient obtenu une variation de résistance de l'ordre de 80%. Mais si on transfère ça à un capteur pratique, quelque chose que vous pouvez utiliser dans un disque dur, vous allez avoir en fait deux couches magnétiques importantes, une dont l'aimantation est fixe, une autre dont l'aimantation bouge, polariseur, analyseur, et vous allez modifier la résistance de votre système en fonction de la rotation de l'aimantation de la deuxième couche. Et si vous reprenez le même système que tout à l'heure et vous remplacez le petit barreau d'aimantation de matériaux magnétiques par cette vanne de spin ici, ce système a trois couches, dont deux couches magnétiques. Vous allez avoir une variation de résistance en fonction de l'orientation du système qui peut atteindre 10 à 20%. On est passé d'un coup de 1% à 10 à 20%. Et quand on est arrivé là, évidemment, ça a permis cette croissance extrêmement rapide parce que à ce moment-là, ce qui limitait la capacité d'enregistrement, c'était le capteur qui servait à la lecture. Et c'est encore quelque chose qui est un apport considérable des nanosciences, parce qu'en fait, pour arriver à obtenir cette variation par un facteur 10 de la variation de résistance, il a fallu amener les dimensions du capteur, les dimensions des couches magnétiques dans ce capteur van de spin, en dessous de valeurs qui sont des valeurs fondamentales du transport électronique quantique dans la matière. Et en faisant ça, on a changé les fonctionnalités d'un matériau magnétique et on a fait des nanosciences permettant d'obtenir des effets nouveaux qu'on peut ensuite utiliser dans les applications. Alors, les têtes de lecture, maintenant, les têtes de lecture-écriture, c'est facile. On garde la tête d'écriture telle qu'elle était avant, hein, avec ce petit système d'entrefer là, fendu qui permet de localiser le champ d'écriture juste en dessous du gap de l'entrefer. Et on rajoute un deuxième entrefer à côté. Et entre les deux écrans de magnétique de ce deuxième entrefer, on va glisser le capteur magnétorésistif. Et ça a été découvert en 1988 en laboratoire par des théoriciens et des gens de la physique fondamentale. Le premier capteur inventé, proposé, il date de 91 par des industriels. Et le premier produit, il date de 97. C'est-à-dire que vous avez une échelle de la façon dont ça se passe. Et encore, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, à ce moment, on passe du laboratoire de la découverte fondamentale à un produit électronique ou enregistrement, etc. Mais ça ne suffit pas. 10 ou 20%, c'est encore trop faible. Et puis, 10 ou 20%, il y a aussi la structure de ce système, on envoie le courant dans le plan, etc. Le deuxième grosse découverte, grosse rupture technologique, c'est la jonction tunnel magnétique. Alors la jonction tunnel magnétique, Albert Fert en a parlé aussi, Claude Fermont aussi hier, c'est un système où vous avez trois couches, pareil, deux couches magnétiques, mais au lieu d'avoir entre les deux couches magnétiques une couche métallique qui sert d'espaceur, là vous mettez une couche isolante. Alors les isolants, dans le monde macroscopique, ça sert à empêcher le courant de passer. Dans le monde quantique, quand ils sont suffisamment fins, des épaisseurs de l'ordre du nanomètre, de quelques nanomètres, mais le courant va passer à travers, par effet tunnel. Ils ne sont plus vraiment isolants, ils ne sont pas vraiment conducteurs non plus, mais le courant passe. Et il se trouve que, vous vous rappelez que les électrons, ils ont une charge et un spin, le passage des charges à travers cette barrière tunnel va dépendre, entre deux couches ferromagnétiques, ça va dépendre de l'orientation respective des deux couches magnétiques. Donc ça dépend du spin de l'électron. Et on peut avoir une vanne de spin où vous bloquez, par exemple, vous mettez les deux aimantations parallèles et vous avez un courant qui passe, et vous mettez les deux orientations antiparallèles, et là, il n'y a plus d'effet tunnel. Et l'amplitude de cet effet tunnel, en laboratoire, on est déjà allé jusqu'à 600%, c'est-à-dire que la résistance est multipliée par un facteur 10 en fonction de l'orientation. Alors là, vous avez de la sensibilité, c'est quelque chose d'énorme. En pratique, pour l'instant, dans les capteurs du commerce, c'est plutôt limité autour de 80%, mais bon, vous voyez, on a encore pris un effet quantique totalement fondamental et on a transformé en une application qui, maintenant, tourne sur tous les disques durs que vous achetez. Et il y avait un autre avantage, et ça se voit bien sur ce schéma, en fait. L'autre avantage, c'est que quand vous avez un capteur vanne de spin, où tout est métallique et vous faites passer le courant dans le plan de la vanne, vous faites passer des courants assez épais, assez importants, et vous êtes obligé de prendre des conducteurs relativement épais ici. Donc ça va écarter vos deux boucliers magnétiques, vos deux écrans magnétiques. Donc vous allez être capable de moins localiser la façon dont vous lisez l'information écrite sur le disque dur. Si maintenant je prends une jonction tunnel magnétique où là les électrons ils passent à travers la barrière tunnel, donc perpendiculaire à la couche, je prends mes deux écrans magnétiques, je mets ma petite barrière tunnel entre les deux et j'ai l'épaisseur minimale que je peux imposer pour l'épaisseur de ma jonction tunnel magnétique. Et donc je vais pouvoir non seulement gagner en sensibilité, mais en plus descendre la sensibilité spatiale de mon capteur magnétique dans le disque dur. J'ai un double gain. Voici par exemple une image de microscopie électronique en transmission qui vous montre comment ça se passe à peu près. Donc là, la barrière tunnel, là-dessus, ça apparaît comme la couche blanche qui est là. Elle fait 1,5 nanomètre d'épaisseur, j'ai oublié de le noter sur la couche, 1,5 nanomètre d'épaisseur, ou peut-être même un nanomètre sur celle-ci. Et vous imaginez quand même la qualité de planéité qu'il faut obtenir pour avoir quelque chose. Alors là, j'aimerais bien aussi récupérer ma souris, ben voilà. Donc vous imaginez la qualité de planéité qu'il faut obtenir. Et comme c'est fabriqué en grande série, ces trucs-là, ça veut dire que vous devez avoir des machines qui sont capables de vous faire des couches d'épaisseur de l'ordre de 1 nanomètre sur des surfaces de l'ordre de 200 ou 300 mm de diamètre. Et avec la dispersion d'épaisseur qui est imposée par les propriétés de cette jonction tunnel, c'est moins de 1% de variation d'épaisseur sur toute la surface de 200 ou 300 mm de votre wafer. Simplement parce que dans une jonction tunnel, la résistance, elle ne varie pas comme l'épaisseur, elle varie comme l'exponentielle de l'épaisseur. Donc vous devez limiter les fluctuations d'épaisseur. Et malgré ça, on arrive à maîtriser, à faire des produits comme je vous disais, qui coûte presque rien. Une tête de lecture magnétorésistive, ça coûte quelques euros à peine à la sortie de l'usine. Je ne dis pas que c'est ce que vous payez vous, mais c'est ce que ça coûte à la sortie de l'usine. Là, vous avez un capteur qui fait à peu près 90 nanomètres de large. C'est cette dimension-là. Et l'espacement, là, le gap qui va fixer la résolution spatiale de votre système, c'est 80 nanomètres. Donc, avec 80 nanomètres. Vous avez une résolution spatiale qui va être très nettement en dessous, de l'ordre de la dizaine de nanomètres, sur la localisation de votre paroi. Et là aussi, c'est un produit qui a été inventé en laboratoire en 1995, donc par des théoriciens aussi, des gens de la physique fondamentale, et qui est devenu un produit seulement 10 ans plus tard, et qui est maintenant diffusé très largement sur tous les disques durs. Donc encore une fois, c'est cet ordre de grandeur de vitesse. Et là, on a résolu le problème de la lecture. Simplement parce que ce qui gênait, ce qui empêchait l'augmentation de densité des disques durs en 90, c'était la sensibilité en lecture. Mais à partir où on accélère la miniaturisation, on va rencontrer le vrai problème de l'enregistrement magnétique. Et ce vrai problème de l'enregistrement magnétique, je l'ai représenté ici, on appelle ça le triangle frustré, ou le trilemme. Vous vous rappelez qu'il faut avoir deux directions d'aimantation équivalentes en énergie avec une barrière d'énergie entre les deux, que cette barrière d'énergie elle est proportionnelle au volume de la particule multipliée par une constante d'anisotropie, que pour que l'information ne soit pas effacée par l'agitation thermique, il faut réussir à avoir une barrière d'énergie qui soit très grande devant le produit entre la constante de Boltzmann et la température, c'est-à-dire la grandeur caractéristique de l'agitation thermique. Si je diminue le volume de mes grains magnétiques, c'est ici, ben je vais forcément diminuer le volume, donc la barrière d'énergie. Et si je veux garder la même stabilité thermique, je suis obligé d'augmenter le facteur K d'anisotropie de mon grain, en plus de la sensibilité de lecture. Mais si je diminue aussi la taille de ma tête d'écriture, la taille de mes fils qui amènent le courant, la taille, je vais être obligé de diminuer la puissance que j'injecte pour écrire. Mais si je diminue la puissance électrique, je vais aussi diminuer le champ magnétique que je crée. Or, ce champ magnétique, il doit rester tout le temps proportionnel à cette constante d'anisotropie du matériau que j'ai appelé K. Donc je me retrouve avec un problème, puisque pour réduire, je dois à la fois augmenter cette constante d'anisotropie K pour garder la stabilité thermique et la diminuer pour pouvoir écrire. Donc je dois trouver une solution. Et en fait, voilà, c'est à ça que la recherche sert. Donc disons que jusqu'en 1998-2000, on a été très contents parce que tout d'un coup, on savait lire des choses plus petites. On a miniaturisé. Et puis à un moment, on s'est retrouvé face à un mur. Puisque ce qui commençait à limiter, c'est ce problème-là. Alors, il faut revenir un peu dans le détail. Quand je vous dis qu'on dépose un fil magnétique continu, en fait, ce n'est pas vrai. Parce que si je dépose un fil magnétique continu, l'interaction d'échange ne me permettra pas d'avoir des séparations très abruptes entre deux grains d'aimantation opposés. Elle va vouloir élargir cette séparation. Alors, ça va être 10, 20, 30 nanomètres. Mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on veut tolérer dans le système. Donc, en fait, on codépose à la fois le matériau magnétique et un autre matériau dans des conditions de température qui font que le deuxième matériau va ségréguer et va venir créer une matrice non magnétique qui va couper l'interaction d'échange entre deux grains magnétiques. Donc on va vraiment stocker l'information, non pas sur la taille du bit que je vais vous donner tout à l'heure, qui correspond à la densité d'enregistrement, mais sur des grains qui sont absolument minuscules, quelques nanomètres de diamètre. Et pour faire un bit d'information, on va mettre une centaine de grains. Pourquoi est-ce qu'on en met une centaine ? À la fois pour augmenter le moment magnétique, et puis parce que ces grains, vous le voyez sur cette image, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, ils ont une grosse distribution de taille. Les petits vont s'effacer très vite, parce qu'ils sont trop petits, donc ils ne sont pas stables thermiquement. Les grains ils vont être durs à écrire, donc des fois on ne va pas y arriver, on va faire des erreurs. Donc on a mis une centaine pour être tranquille et pour assurer une fiabilité de l'information. Et quand on regarde, par contre, le nombre d'atomes sur lesquels on stocke à l'heure actuelle l'information magnétique, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'il y a dans un grain, mais vous voyez que vers 2009, par exemple, on arrive à 1 millier d'atomes. Et 1 millier d'atomes, c'est la taille d'une grosse molécule. Donc, en fait, on est presque rentré dans le domaine moléculaire. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Qu'est-ce qui va gêner le plus dans le fait que on va effacer l'information, on ne va pas pouvoir écrire des bits tout petits. Je vais vous montrer, j'ai fait une expérience de physique, je l'ai filmée parce que c'est plus facile de vous le montrer en film. En fait, j'approche deux aimants, Donc, aimantation opposée, la partie rouge, c'est la partie classique. Et vous voyez ce qui se passe, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à les rapprocher l'un de l'autre parce qu'il y a le champ magnétique, qui, l'interaction classique, hein, macroscopique du champ magnétique des deux aimants, qui fait que quand je les approche, ben, à un moment donné, je pousse tellement que soit ça se dévie, soit si je lâche l'aimant de gauche, hop, il va se retourner et effacer l'information. Vous imaginez maintenant que ces deux aimants, c'est les petits grains sur lesquels j'ai stocké l'information 0 et l'information 1. Et quand je les rapproche comme ça, à un moment donné, clac, ils s'effacent sous l'effet de l'interaction entre les deux. Ah, non, j'ai fait une bêtise. Voilà. Et si je fais ça, si je fais des calculs micromagnétiques le plus performants possible en prenant des domaines tout petits, presque de la taille du moment atomique, voilà ce qui se passe. Ben, vous avez en vert le bit, les grains qui devraient être orientés vers le haut, en violet ceux qui devaient être orientés vers le bas, et en jaune ceux qui tournent, sous l'effet de cette interaction, et qui donc vont me limiter la stabilité thermique de mon information. Et vous voyez, ça marche quasiment comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sous l'effet de l'interaction, clac, ils vont tourner. Donc ça, c'est ça qui va... Si j'ai des grains comme ça qui sont orientés n'importe comment au milieu, je diminue mon signal et je finis par ne plus être capable de lire, de capter à travers le bruit. Donc, cette histoire d'opposition comme ça, des aimantations de tête bêche, il fallait trouver une solution. Et cette solution, ben, c'est ce qui a permis de continuer à augmenter la capacité d'enregistrement au-delà de l'an 2004-2005, par là, où ça commençait à saturer. Vous voyez, on voit la courbe verte là, qui manifestement commençait à devenir horizontale. Et si on la continue, c'est qu'on a changé cette façon de stocker l'information et on est passé à l'information perpendiculaire. Alors là, c'est pareil. Vous allez voir comment ça se passe. Cette fois, je vais changer de logiciel. De film, vous voyez. Maintenant, j'amène mes deux aimants, cette fois, parallèles l'un à l'autre. Alors, j'ai le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que, hop, il va m'échapper et tourner. Mais si, par contre, je les amène, cette fois, proches l'un de l'autre, mais antiparallèles, ils vont se coller l'un à l'autre et ils sont dans une situation stable. C'est-à-dire que quand je veux stocker des grosses densités d'informations sur des cellules beaucoup plus petites, je vais avoir intérêt à les mettre non pas dans le plan de mon fil magnétique, que vous pouvez imaginer ici par exemple, mais perpendiculaire au plan du fil magnétique. Alors ce n'est pas favorable pour ceux qui avaient avant, mais au-delà d'une certaine dimension, ça devient favorable. Voilà, c'est ce qui a été fait par nos collègues industriels. Et il y a un autre avantage à ce truc-là, c'est que quand vous regardez la structure de la tête en anneau de l'enregistrement longitudinal, vous n'utilisez pas le champ magnétique qu'il y a au niveau de l'entrefer, vous utilisez le champ magnétique qui fuit en dehors de l'entrefer. Et là, vous pouvez avoir un facteur 3 ou 4 sur l'intensité entre les deux, c'est-à-dire que vous créez beaucoup de champs à un endroit où vous ne pouvez pas l'utiliser, et là où vous pouvez l'utiliser en dehors du système, il est beaucoup plus faible, donc vous avez gaspillé de l'énergie. L'enregistrement perpendiculaire, cette fois, ben, je vais être obligé de changer la forme de mon entrefer, parce que cette fois, je veux un champ magnétique qui sorte perpendiculairement à l'entrefer pour écrire des bits d'aimantation qui sont perpendiculaires à la couche. Donc je vais faire un pôle très fin ici pour concentrer le flux magnétique et avoir un champ élevé. Je vais en faire un très large derrière pour avoir un champ magnétique beaucoup plus faible qui ne risque pas d'effacer ce que je viens d'écrire quand la tête va passer sur le média. Et puis je vais rajouter une couche dite douce, d'aimantation qui peut tourner facilement quand j'applique un champ magnétique. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, cette couche douce, elle va jouer le même rôle que l'entrefer de ce côté ou cet entrefer-là, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, je vais me retrouver avec un système magnétique qui va être équivalent à un électroaimant complet, mais cette fois, vous voyez, mon matériau magnétique pour stocker l'information, il est exactement au milieu de l'entrefer, là où le champ magnétique est le plus élevé. Et là, je gagne facilement un facteur 3 sur l'intensité du champ magnétique avec le même courant dans la bobine, et donc je peux écrire des matériaux avec un facteur K beaucoup plus élevé, 3 fois plus élevé, donc des grains beaucoup plus petits. voilà l'image que vous pouvez avoir de ce système-là, hein, avec la bobine, etc. Alors là, ça a été représenté avec une tête de lecture spin valve dans le plan. En fait, les bits enregistrés sont beaucoup plus stables, et surtout les matériaux à fort facteur d'anisotropie qu'on peut faire pour l'aimantation perpendiculaire sont beaucoup plus faciles à faire que pour l'aimantation dans le plan. On considère que le potentiel de ce truc-là, ça permettrait d'aller jusqu'à au moins 1000 bits par micron carré, et même peut-être 2 ou 3000 facteurs bien plus grands. Alors, où est-ce qu'on en est en 2008 ? Ben, vous avez toujours mon petit disque dur avec la piste, etc. Ma tête de lecture, là, symbolisée par une micro-bobine. Quand je regarde la taille d'un bit, je voulais donner un nombre d'atomes, parce qu'en fait, je pense que c'est plus parlant que des nanomètres. Le bit d'information que vous lisez sur votre disque dur, à l'heure actuelle, il fait à peu près 80 atomes de long par 350 atomes de large. Donc le nombre d'atomes là-dedans, il est extrêmement petit. L'épaisseur du film magnétique en perpendiculaire, ça a augmenté un tout petit peu, c'est de l'ordre de 40 atomes. On est vraiment dans une physique atomique, hein, puis que je vous disais. Votre piste, elle passe devant la tête à une vitesse de 30 mètres secondes. 30 mètres secondes, ça fait à peu près 100 km/h. C'est beaucoup. Surtout qu'elle ne vole pas à 1 cm au-dessus, mais à 10 nanomètres au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 40 atomes d'écart à peu près entre les deux. Comment on fait ? On fait la couche magnétique, on dépose du diamant, une couche très fine, mais très dure. Et sur le diamant, on met une couche de molécules qui va servir de lubrifiant, parce que de temps en temps, il y a des chocs. Il faut quand même qu'il y ait un petit lubrifiant pour amortir les chocs. Et ça suffit. Et il faut imaginer qu'avec des vitesses de 100 km/h, etc., la tête de lecture, elle a beaucoup moins qu'une nanoseconde pour lire l'information magnétique qui est sur le système. Donc il faut vraiment qu'elle se dépêche. Donc c'est non seulement des nanosciences, mais c'est aussi de la très haute technologie. Quelques exemples pour vous fixer les idées. Ça, c'était la taille d'un bit en 2006, avec l'enregistrement longitudinal, 40 nanomètres par 160 nanomètres. Ça, c'est 500 gigabits par pouce carré, c'est les démonstrations de labo qui vont sortir en produit en 2009, disons fin 2009, peut-être 2010. Donc c'est déjà beaucoup plus petit. Ça, c'est le virus de la grippe. Il est plus gros que ce qu'on fait. Et ça, c'est l'enregistrement optique Blu-ray, c'est-à-dire la plus grosse densité d'enregistrement en optique à l'heure actuelle. Et vous voyez que c'est extrêmement gros par rapport aux bits de disque dur. Et puis, on peut aussi comparer la hauteur de vol à des grandeurs que vous connaissez dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, la tête, elle vole à peu près à 10 nanomètres, c'est-à-dire un centième de micromètre au-dessus de la piste magnétique. Ça fait donc, comme je disais, 40 atomes. Bah, quand vous comparez, le diamètre moyen d'un cheveu, c'est 100 microns. Une empreinte digitale, quand vous touchez une surface, c'est de l'ordre de 6 microns. Le diamètre moyen d'une particule de pollution que vous respirez quand vous baladez en Paris, par exemple, c'est de l'ordre de 2,5 microns, c'est-à-dire c'est de toute façon quelques centaines de fois plus grand que la hauteur de vol de votre tête sur le disque dur. Ça veut dire que votre disque dur, il est dans une enveloppe scellée. Il a été mis dans cette enveloppe sous atmosphère contrôlée, très propre, etc. Et si vous avez envie de démonter l'enveloppe, ben vous pouvez être sûr que votre disque dur ne fonctionnera plus jamais. Parce que rien que les particules vont être suffisantes pour faire sauter la tête dans tous les sens. Et puisque j'ai appelé une mise en perspective aérienne, ça n'a pas une signification phénoménale, mais c'est quand même très rigolo. Donc vous imaginez votre tête, votre disque qui tourne au maximum 1500 tours minute, à une vitesse de l'ordre de 100 km/h. La tête qui fait des dimensions de l'ordre de 500 microns à l'heure actuelle, et qui vole à une hauteur de, disons, 40 atomes, la dizaine de nanomètres au-dessus du disque, et qui suit une piste qui fait à peu près 300 atomes de large. Et sur cette piste, elle doit compter, sans faire d'erreur, des petits bits d'information, des petites zones, qui font à peu près 80 atomes de long. D'accord ? Bon. Vous appliquez un facteur d'échelle et vous dites si la tête de lecture était un Boeing 747, il volerait à 800 fois la vitesse du son, Mach 800, pas Mach 2, hein, Mach 800, c'est pas le Concorde, c'est le Super Concorde. Et il ferait ça à peu près à quelques millimètres au-dessus du sol. Et à quelques millimètres au-dessus du sol, il faudrait qu'il compte chaque brin d'herbe En faisant moins de 10 erreurs irrécupérables sur le comptage de Benderme sur une surface de la taille de l'Irlande. Pris l'Irlande parce que le copain qui m'a filé ça, il est irlandais, Brendan Lafferty, et en plus, en Irlande, c'est vert, donc il y a beaucoup d'herbes. Donc, vous imaginez un peu la qualité de technologie que ça représente, ne serait-ce que sur la mécanique qui pilote ce disque dur. Et ça, c'est un coût inférieur à 100 euros. Donc, le prix d'une paire de chaussures, et encore, je ne suis pas sûr qu'un ado, 100 euros, il ne trouverait pas que c'est quand même de la mauvaise qualité. Donc, si c'est maintenu à 100 euros, c'est parce qu'il y a des technologies de fabrication en grande série, avec une qualité irréprochable. Donc, les têtes de lecture, elles sont faites sur des wafers de 200 mm. Elles sont ensuite découpées, elles sont collées sur le petit traîneau, là, au bout du bras. En plus, on va coller plusieurs bras de suite pour pouvoir mettre plusieurs plateaux, plusieurs disques qui tournent en même temps. Comme ça, on partage le coût du moteur, on partage le coût de l'actionneur du bras, etc. L'autre chose, par exemple, comment on arrive à faire tenir une tête de lecture à 10 nanomètres au-dessus du disque sans qu'elle parte dans tous les sens, surtout quand elle va choquer, elle va cogner le disque, etc. Ben c'est facile, c'est un effet de sol, c'est ce qui a été utilisé pour les formulants et qui a été interdit à une époque parce que si votre effet de sol cesse pour une raison ou pour une autre, la formulant elle décolle et elle part dans les choux. Ben sur le disque c'est pareil, sauf qu'on se débrouille pour que ça décolle pas, si tout va bien. Donc en fait, c'est le patent, le dessous de votre petit traîneau là, sur lequel est fixée la tête de lecture, elle est fixée à ce bout-là du traîneau. Hein, et ça, c'est ce qui rattache à l'actionneur. Le patent, il a un dessin extrêmement bien conçu, de manière à ce que, aérodynamiquement, le point d'équilibre entre le flux d'air qui passe entre le patin et le disque fait que quand vous descendez en dessous de 10 nanomètres, le disque repousse la tête et quand vous montez au-dessus, au contraire, il y a un effet d'attraction. Et c'est ça qui permet que ça reste à 10 nanomètres de hauteur de vol et que ça fonctionne, sinon vous ne seriez pas capable de lire votre système. Alors évidemment, à 10 nanomètres de hauteur de vol, vous imaginez que si vous n'aviez pas des systèmes de sécurité, de temps en temps, ben, comme la Formule 1, hein, le système décolle. Alors quand il y a un problème, quand par exemple votre système va détecter soit le disque qui commence à s'arrêter parce qu'il y a une fin de secteur, si vous arrêtez avec ce type de matériaux, de tête de lecture, etc., c'est tellement lisse des deux côtés que si vous arrêtez la tête de lecture en contact avec le disque, vous ne redémarrerez jamais parce que ça va coller. Il y a un collage atomique qui se fait, et après ça ne bouge plus. Donc vous avez tout arraché. Donc il ne faut jamais que le disque s'arrête quand la tête est toujours au-dessus du disque, et il ne faut pas non plus que vous secouez trop fort quand le système fonctionne. Trop fort, ça supporte quand même Mach 9, hein, donc, 9G, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un pilote de chasse dans son avion. Mais enfin, bon, si vous laissez tomber comme ça sur le sol, ça pourrait se casser. Donc dans le disque, vous avez un accéléromètre, et s'il sent que votre système est en chute libre, hop, il prend la tête de lecture et il l'envoie sur un système de parking, qui est le petit truc que vous avez ici, qui sort la tête du disque et qui la laisse en dehors du disque, là où elle risque rien, jusqu'à ce que votre disque dur ait repris un fonctionnement normal. Et à ce moment-là, il va la ramener tout doucement pour lire le disque. Et là, vous pouvez faire du jogging à votre disque dur. Vous pouvez même le laisser tomber. Enfin, je ne vous le conseille pas parce que vous risquez d'avoir quand même des problèmes. Mais en principe, la plupart des disques durs sont protégés. Alors là, je vous en ai montré un qui fonctionne. Il faut juste que je lance le truc. Vous n'avez jamais vu de disque dur en train de fonctionner. Vous allez en voir un. Donc en fait, c'est un disque dur. Voilà. C'est un disque dur de Fujitsu où ils ont remplacé le capot habituel en métal par un capot transparent. Donc ce que vous voyez, c'est le disque en train de fonctionner à vitesse normale. Donc il est en train de lire un secteur, par exemple, à ce bout-là du disque, et puis après, hop, il va lire un secteur vers le milieu. Le truc a été programmé pour qu'il bouge comme ça, pour que vous voyez à quelle vitesse ça fonctionne. Et vous imaginez qu'à chaque fois, il va chercher et s'aligner sur un secteur avec une vitesse de rotation de l'ordre de 7500 tours minute sur celui-là, et avec une largeur de la piste sur laquelle le bras va se fixer, qui fait 350 à 400 atomes de large, c'est-à-dire une centaine de nanomètres, 0,1 micron, pas plus. Voilà. Et donc ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et zut. Et c'est pas gros, c'est pas grossi, hein, c'est la taille normale, je pense. Oups. Voilà. Alors vous avez vu aussi sur ce film, vous avez vu ce qui est la faiblesse la plus importante du disque dur. C'est-à-dire que on a réussi à faire fonctionner le système avec des densités d'enregistrement absolument phénoménales, mais ce qui limite, c'est le fait que votre bras, c'est un système mécanique, et quand il passe d'une piste à l'autre, il met quelques millisecondes. Donc quoi que vous fassiez, quelle que soit la vitesse de lecture des données sur un même secteur, vous allez avoir besoin de quelques millisecondes pour passer d'un secteur à l'autre. Alors bon, là, c'est un petit tableau, hein, je veux dire... Je l'ai mis, c'est pas extrêmement important. Tout ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que la partie mécanique du disque dur, c'est la partie qui limite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire très rapidement? Pour justement s'affranchir de cette partie limitante mécanique, on va rajouter à l'entrée du disque dur une mémoire flash, où là, il n'y a pas de mécanique. Et puis le disque dur, il va télécharger une partie de ses données sur la mémoire flash. Et quand vous voulez commencer à lire un fichier, par exemple, il va lire le début du fichier sur la mémoire pendant qu'il va chercher le reste du fichier sur le disque dur. Donc ça vous fait gagner quelques millisecondes sur le temps d'accès, tout en gardant l'énorme capacité du disque dur et le coût, parce que la mémoire flash, à l'heure actuelle, à capacité égale, elle coûte 10 fois plus cher. On ne sait pas plus. Pour arriver à rester quand même à 10 nanomètres de la surface, ni plus près ni plus loin, l'effet de sol ne suffit pas. Donc on va rajouter, au bout du patent, on va rajouter un petit système de chauffage. Et quand vous envoyez du courant, plus ou moins de courant pour chauffer, le système va se dilater et il va jouer, il va faire bouger la position de la tête sur une gamme de l'ordre de quelques nanomètres, qui va permettre de rajouter une contre-réaction pour fixer la hauteur de vol du système. Et puis comme maintenant vous voulez suivre des pistes qui vont bientôt faire à peine 200 atomes de large, hein, c'est là dans un an ou deux, vous ne pouvez pas garder un système de commande avec un bras qui fait 50 mm de long. Vous imaginez un peu la rigidité du bras et tous les problèmes que vous avez, ça ne peut pas être très rapide. Donc en fait on va faire le bras comme ça, et puis on va rajouter un micro-bras qui a été usiné par des technologies silicium, là, qui est le bras qui est là, avec des commandes électrostatiques. Donc lui, il peut bouger très très vite sur des distances toutes petites, mais il va pouvoir s'adapter beaucoup plus rapidement que la partie mécanique globale du bras. Et ça permet d'aller vite. Et puis, en fait, jusqu'à maintenant, le disque, il était complètement lisse. En fait, quand c'est trop lisse, on n'arrive pas à suivre très bien la piste. Et puis, entre deux pistes magnétiques, on a toute une zone qui n'est pas écrite et qui ne fait que rajouter du bruit sur la lecture. Donc les prochains disques durs, ils vont être gravés en piste circulaire, gravés comme vous avez sur les aspects, les DVD par exemple, ou les CD audio. Et puis comme on veut pouvoir passer à des matériaux qui ont des anisotropies encore plus grandes, et que même la tête d'écriture perpendiculaire, elle commence à atteindre ses limites, en champ magnétique, bon, on va rajouter une diode laser, et au moment où vous écrivez, vous envoyez une impulsion de laser qui va chauffer le disque. Donc vous chauffez, vous diminuez l'anisotropie du matériau, ça, vous diminuez le champ d'écriture par un facteur 3 ou 4, et vous écrivez à ce moment-là avec votre tête, et ensuite, dès que ça sort de la tête, ça se refroidit, et là, l'information est stockée et elle ne bouge plus. Et c'est extrêmement rapide, ces processus de chauffage, refroidissement peuvent prendre quelques nanosecondes, pas plus. Donc ça ne va pas ralentir le système. Et comme vous ne pouvez pas focaliser un laser sur moins que la moitié de la longueur d'onde, vous allez focaliser le laser à, disons, 0,5 micron de diamètre sur une nanostructure métallique qui est représentée ici, en aile de papillon, avec des dimensions et un gap au milieu qui sont beaucoup plus petits. Et la nanostructure, vous allez exciter les électrons là-dedans, qui vont se mettre à bouger, et qui vont réémettre de la lumière, mais cette fois avec des propriétés de localisation qui ne sont pas dues à la lumière initiale du laser, mais qui sont dues à la dimension de cette nanostructure métallique ici. C'est ce qu'on appelle les effets plasmons en champ proche, et ça vous permet de focaliser un faisceau laser visible à des dimensions de l'ordre de 30 ou 40 nanomètres de diamètre. C'est quand même assez performant. Et puis l'objectif ultime, je vous ai dit qu'on mettait une centaine de grains magnétiques tout petits pour stocker un bit d'information. L'idéal, ce serait quand même qu'il n'y en ait qu'un. Donc il y a plusieurs façons d'y arriver. La façon la plus sympa, ce serait de faire des milieux patternés comme ça. Vous déposez un film continu et puis vous gravez des petites bits dessus. Mais ça coûterait beaucoup trop cher. Donc en fait, on fait appel à nos collègues de la chimie ou d'autres sciences. Peut-être que vous aurez d'exposer là-dessus demain. Et eux, ils sont capables de créer, en solution ou par notre méthode, ils sont capables de créer des petites particules qui vont s'auto-organiser pour donner toutes les mêmes dimensions latérales. Et vous pouvez après les organiser sur une surface. Donc ça, c'est par exemple des particules d'alliage fer-platine qui font à peu près 6 nanomètres de diamètre et qu'on a réussi à déposer en réseau régulier sur une surface. Alors là, évidemment, vous n'avez plus besoin de mettre 100 bits par grain. Vous pouvez, à la limite ultime, vous contenter d'en mettre un seul comme c'est là. Et si vous faites ça avec 6 nanomètres de diamètre de particules, vous avez 13 terabits par pouce carré de densité d'enregistrement. Alors les chimistes ont encore du travail, heureusement, pour ceux qui sont dans la salle, parce que ça, on arrive à le faire sur des toutes petites dimensions, pas sur des surfaces de la taille d'un disque. Donc on va quand même collaborer avec les chimistes, parce que sur des toutes petites dimensions ou un milieu confiné, on arrive à avoir un très bon alignement de ces particules. Donc on va créer des pistes dans le disque, comme je vous disais tout à l'heure, on va créer des pistes sur lesquelles on va stocker ces petites particules. Et là, à l'intérieur d'une piste qui fait 100 nanomètres de large, les particules vont s'organiser. Donc c'est ce que vous voyez ici. On a un réseau presque parfait de particules magnétiques dans cette piste qui est là, par exemple. Alors une usine de disques durs dans le futur, ça va être quelque chose qui ne va pas du tout ressembler à ce qu'on a à l'heure actuelle, parce que pour faire ce type de lithographie, de graver des pistes, etc., pas cher, on va emprunter les techniques de l'enregistrement optique. C'est-à-dire qu'on fabrique ce qu'on appelle un masque en relief. Ce masque en relief, on va venir le presser sur le disque sur lequel on veut travailler. Ensuite, on va déposer la chimie derrière et on va avoir nos pistes de matériaux auto-organisés sur le système. Si tout va bien, parce que les solutions, c'est quand même encore assez loin. Et alors pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire tout ça? On est obligé de faire tout ça à cause de la concurrence de nos collègues. Parce que comme vous voyez sur ce diagramme, là, en fait, c'est toujours la densité d'enregistrement en bits par micron carré cette fois, en fonction, parce que c'est un Européen qui l'a fait, et en fonction du temps. En vert, c'est le disque dur. Alors vous reconnaissez ici, à ce niveau-là, là, cette cassure, cette augmentation dans la densité d'enregistrement, c'est la magnétorésistance géante et la tête 22 spin d'Albert Fert et Peter Grünberg. Et ça a permis de monter très très vite. Et puis là, on a commencé à saturer, on n'arrivait plus à augmenter la densité d'enregistrement, on est passé à l'enregistrement perpendiculaire. Donc on a remis à augmenter à toute vitesse la densité d'enregistrement. Mais les copains, ou les concurrents plutôt, de l'enregistrement optique en bleu ou de la mémoire flash, eux, ils ne sont pas arrêtés non plus, donc ils continuent à augmenter. Donc, si je veux garder un avantage en termes de coût et de capacité, par exemple, le disque dur doit continuer à augmenter sa densité d'enregistrement. Si on sature et qu'on arrête, en quelques années, ça va devenir l'enregistrement optique ou l'enregistrement semi-conducteur sur les flashs, et on ne vendra plus de disque dur. Ce qui serait bien dommage, parce que c'est quand même là-dessus que je fais mon salaire. Hein, donc... Bon. Et puis les flashs, ils sont malins, eux, ils arrivent à mettre 2 bits par cellule, ou même peut-être plus, donc ils avancent beaucoup plus vite que nous. Et qu'est-ce qui nous attend derrière? C'est pas compliqué. Quand on sera plus capable de faire des particules, on va les remplacer par des molécules, à condition de savoir stocker quelque chose de stable à température ambiante sur les molécules. Et puis quand on ne saura plus faire nos molécules, on va passer à l'atome, parce qu'on va vouloir continuer, et peut-être un jour, on va commencer à stocker l'information sur le spin d'un électron. Et là, on sera revenu à monde transparent du début. On aura fait tout ce travail entre les deux pour revenir aux sources de la mécanique quantique. Alors là, je crois que j'ai quand même dépassé un peu le temps. Donc, juste un petit clin d'œil. Ça, c'est le premier disque dur de l'histoire, 1700 avant Jésus-Christ. C'est de l'argile. c'était gravé dessus, donc c'est presque plus un disque optique qu'un disque magnétique, évidemment. Mais enfin, il a quand même réussi à conserver l'information pendant près de 4000 ans. Je ne pense pas qu'en disque dur ou même un enregistrement numérique, on sera jamais capable de faire ça. Mais bon, on peut toujours espérer. Et puis, je voulais terminer par les remerciements pour tous les gens avec qui je travaille, qui m'ont aidé, qui m'ont lancé dans cette discipline comme Jean-Pierre Renard. Et puis, je vous remercie de votre attention.
Merci, merci Claude Chappert. On a quand même quelques minutes pour des questions. Alors, faites vite si vous en avez. Voilà, j'en vois une au milieu. Déjà, une en haut. Allez-y, commençons par la première en haut, madame.
Excusez-moi. Ce n'est pas vraiment une question, je suis absolument désolée, mais bon, vu le niveau scientifique, ce n'est pas la librairie du Congrès, c'est la bibliothèque du Congrès. Et library en anglais, ça veut dire bibliothèque, et bookshop, c'est librairie. Excusez-moi, c'est un détail, mais votre deuxième ou troisième transparent comporte une erreur dans la traduction du mot library. Library, c'est la bibliothèque du Congrès, ce n'est pas la librairie du Congrès. Sur le niveau de 10 téraoctets. Oh,
d'accord, c'est très bien, mais on n'a pas de temps pour ça.
Je suis d'accord.
Alors, allez-y, ici. Monsieur.
Oui, pour rebondir sur votre dernier transparent, vous évoquiez au début de l'exposé l'équilibre qu'il y a entre le bruit thermique et l'énergie magnétique. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment la réduction de la taille du bit va se traduire dans la durabilité du stockage, la permanence du stockage ?
Eh ben, si on fait bien notre travail, elle ne se traduit pas. Il n'y a pas de détérioration. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il faut voir que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce qu'on est obligé de lâcher sur la stabilité du stockage. Mais on se rattrape sur le traitement mathématique des erreurs. Donc sur un disque dur, vous allez utiliser à peu près 70% de la surface pour stocker de l'information et 30% pour stocker des mathématiques qui vont permettre de corriger les erreurs. Donc en fait, on a un taux d'erreur qui est de 1 sur 100 000 à peu près, et après correction par les maths, le taux d'erreur redescend à 10-13 ou 10-14, c'est-à-dire des choses qui sont tout à fait tolérables pour ce qu'on fait. Mais la durée de vie de l'information de votre disque dur reste 10 ans. C'est ce qui est visé par les scientifiques et qui correspond aux normes de fabrication. Alors, 10 ans, ce n'est pas un enregistrement d'archivage. Là, vous ne tiendrez pas 4000 ans là-dessus. C'est-à-dire que les données que vous stockez de manière numérique, de manière générale, tout ce que vous stockez de manière numérique, vous remplacez le stockage dans une archive par vous devez le remplacer par une nécessité de gérer l'information numérique dans la durée. Gérer l'information numérique dans la durée, ça veut dire tout ce que vous stockez maintenant, dans 3 ou 4 ans ou 5 ans, vous devez le restocker sur de nouveaux supports pour être sûr que vous serez toujours capable de le lire. Si vous le stockez, que vous le mettez dans un coin, dans 30 ans, vous allez le récupérer, vous n'aurez plus de lecteur, le système se sera dégradé, vous aurez perdu l'habitude de travailler avec ces trucs-là, et donc vous aurez perdu votre information. Donc le stockage numérique, ça peut paraître extrêmement attractif, mais il faut savoir que c'est une philosophie complètement différente du stockage de l'information. C'est quelque chose qui est dynamique.
Ici, madame.
Oui, est-ce qu'il y a un problème, j'ai perdu ma question, excusez-moi, attendez, je la reprends,
monsieur,
retrouvez votre question. Les efforts dus à Coriolis risquent-ils de sont-ils pris en compte quand on manipule l'appareil sur les disques durs ?
Non, mais en fait... Le système, il va balayer, il arrive sur une piste, et ensuite il a un système de contre-réaction qui lui permet de se fixer sur la piste. C'est-à-dire qu'en fait, il s'auto-corrige en permanence. Il va arriver sur la piste et il va y rester parce que chaque fois qu'il s'en écarte, il a un signal qui lui dit de revenir. Donc, quelles que soient les forces qui existent dans le système, quelle que soit la façon dont vous tournez votre disque, vous le bougez, même si vous courez avec, il est quand même capable de corriger tout ça en temps réel, à des vitesses extrêmement élevées, de façon à rester sur la piste de lecture. Sinon, ça ne marcherait pas. Hein, ça ne pourrait pas.
Voilà, vous avez retrouvé votre question.
Oui. En fait, je voudrais poser une question, non seulement sur la durabilité du disque lui-même, mais comment on fera pour retrouver éventuellement, comme les produits changent tellement rapidement, des lecteurs de disques ? Parce que si je prends, bon, par exemple, les lecteurs, les micro-sillons, si vous voulez, hein, ou même les 78 tours, bon, maintenant, c'est pratiquement impossible de les lire. Les bandes magnétiques aussi, si vous voulez. Donc, en fait, vous avez un disque, hein, il va être de plus en plus compact. Bon, à supposer que même dans la durée de 10 ans ou 15 ans max, est-ce qu'on va toujours avoir des lecteurs pour le lire ?
Non. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, vous ne devez pas envisager le stockage numérique sous toutes ses formes comme un stockage d'archivage sur le long terme. Comme par exemple, on a gardé tous nos diplômes d'étudiants dans une armoire, et puis 50 ans, 60 ans, 70 ans après, on les retrouve. Là, un stockage comme ça, c'est un stockage qui doit être refait régulièrement, de façon à garder la compatibilité avec les lecteurs, avec les standards, les normes de stockage, et éviter la déperdition de stockage dès que disque dur, si vous attendez 10 ans avec le même disque dur, en principe vous arriverez à le relire. Dans la pratique, le taux d'erreur aura augmenté, donc vous pouvez avoir des erreurs sur le disque dur. Et là,
allez-y monsieur.
Le centrage de le pointage de la tête de lecture sur le disque est un problème très important, et il n'y a rien qui sur le disque lui-même aide ce pointage. Il n'y a pas une structure qui est écrite a priori qui permet de guider la tête.
Oui, et effectivement, donc j'ai dû montrer ça sur un de mes transparents, mais peut-être un peu rapidement. Vous avez tout à fait raison. À mesure qu'on diminue la taille des pistes, on n'arrive plus à se fixer dessus, parce qu'il n'y a plus assez d'écart. Une contre-réaction, c'est un système où, dès que vous sortez de la position, vous avez un signal qui augmente très vite et qui vous y ramène. Si ce signal n'augmente pas assez vite, vous pouvez partir et vous en éloigner définitivement. À l'heure actuelle, avec les pistes très étroites, le signal n'augmente plus assez vite. Donc on va être obligé de graver des pistes, comme sur les CD audio, par exemple, ou les DVD. On va graver des pistes sur le disque. Et ces pistes, le fait d'avoir une gravure fait que là où vous avez un sillon, vous n'avez plus de matériaux magnétiques, et dès que votre tête va s'écarter de la piste, elle va immédiatement repérer l'absence de matériaux et y revenir très rapidement. Donc oui, effectivement, c'est pour 2009 ou 2010, au plus tard.
Bien, nous allons vous remercier, Claude Chappert.